j'espère que vous êtes venus ce matin préparés. J'espère que c'est le cas tous les dimanches, et surtout ce dernier dimanche 2014, que vous êtes venus préparés à la fois de recevoir quelque chose de la parole de Dieu, mais aussi préparés par la suite à le mettre en pratique. C'est le but. Ici, c'est pas simplement une simple transmission d'informations pour votre bien, mais c'est surtout pour nous aider tous à aller de l'avant avec Dieu. Et sur cela, je vous invite à trouver avec moi le psaume chapitre 3. Nous sommes de nouveau dans les psaumes. Psaume chapitre 3. En lisant ce chapitre, en méditant sur ces versets, je me suis dit, voilà, quelque chose que le Seigneur aimerait que j'apporte pour ce dernier dimanche de l'année. En fin d'année, vous savez, souvent on fait une réflexion sur l'année passée, on fait un peu le bilan, et il faut faire un examen, un bilan de l'année passée spirituellement avec Dieu. Mais ce psaume 3 nous aide à cela, mais aussi nous projette aussi en avant. Donc permettez-moi de lire ces versets de psaume chapitre 3, tout le chapitre, 9 versets, et puis nous prierons pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Psaume chapitre 3, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi? Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu? Pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Prions. Oui, Seigneur, encore une fois, nous venons devant toi et nous demandons ta bénédiction sur ces quelques instants que nous passerons dans ta parole, que tu diriges notre pensée, Seigneur, et que tu nous transformes par cette parole puissante. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors, vous savez que parfois dans les psaumes, on ne connaît pas l'auteur du psaume, et parfois même si on connaît l'auteur, on ne connaît pas tout à fait les circonstances dans lesquelles le psaume a été écrit. Et ici, pas de doute, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde ce premier verset, c'est déjà de David. Il en a écrit pas mal des psaumes. Donc c'est de David, cet auteur très accompli. Et même lorsque vous regardez à la fin du verset 3, à la fin de verset 5 et de nouveau à la fin de verset 9, se pose. En fait, c'est comme cela qu'on a traduit un mot en hébreu. Et apparemment, David a écrit ceci comme un chant. C'était des marques pour la musique quand on chantait. Quand on voit se pose, parfois dans la Bible, on va tout simplement laisser le mot Sela. Quand vous voyez ça, c'est probablement ces marques de musique pour lorsque ces chants étaient chantés dans l'assemblée, tout le monde puisse bien participer. Et du coup, David va se mettre à écrire ce psaume, un chant, et on voit les circonstances dans lesquelles il écrit. Regardez verset 1, à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Vous vous souvenez de l'histoire, on retrouve cela dans Samuel, dans Rois, dans les livres des Rois, où Absalom va instiguer une rébellion contre son père. Il va tourner le cœur du peuple vers lui, va détourner de son père, et là, David sera obligé de fuir Jérusalem. Il va passer de l'autre côté du Jourdain et il va y rester pendant quelques temps jusqu'à la défaite de son fils et aussi la mort de son fils, malheureusement. Et c'est dans ces conditions-là que David, ici, va écrire ce psaume. Et on peut se dire, ce n'est peut-être pas des circonstances propices pour faire cela, n'est-ce pas? David prend la fuite, il est en danger, son fils en veut à sa vie, et puis il a tous ses gens, et il doit s'en occuper, il est loin de chez sa maison, il est loin de toutes ses provisions, il est loin de tous ses biens, comment est-ce qu'il va s'occuper de cette foule qui est avec lui? Et dans ces moments où tout pourrait sembler assez désespéré, assez noir, rien ne va. Dans d'autres psaumes, il va parler d'être trahi par son plus proche ami, ses anciens conseillers vont même se tourner contre lui. Dans ces circonstances-là, où tout est désespéré, tout est noir, tout est sombre, c'est là où David va se mettre à écrire des paroles auxquelles beaucoup, sinon tous, peuvent s'identifier. Pas. Lorsque nous lisons ces quelques premiers versets, on se dit oui, on comprend. Verset 2, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Qui n'a jamais eu l'impression d'avoir tout le monde à l'attaquer? Parfois on a cette impression que tout le monde est contre nous et on est seul là au milieu de toutes ces attaques. Qui a jamais eu cela? Je pense que si on a vécu assez longtemps, à un moment ou à un autre, on va avoir cette impression. Puis, verset 3, c'est moqué. Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu? On disait à David, mais il est inutile que tu places ta confiance en Dieu. Regarde, tu es chassé de ton palais, tu es chassé de chez toi. C'est ton fils qui prend le dessus. Regarde ce que ta crainte de Dieu a fait pour toi. Ça ne vaut pas la peine. Il n'y a plus de salut pour toi. Dieu ne va pas t'aider. Dieu ne va pas te sortir de cette situation. Et dans ces quelques premiers versets, on voit que David exprime ses sentiments à Dieu. C'est à Dieu qu'il est en train d'écrire. David met ses paroles probablement sur des parchemins à l'époque. Il les écrit parce qu'il a ses sentiments et il les écrit pour Dieu. Et c'est un point qui est très important pour nous à comprendre aujourd'hui. En tant que chrétien, de pouvoir nous exprimer honnêtement à Dieu, nous exprimer sur nos sentiments, sur ce que nous ressentons, bien ou mauvais, pouvoir faire cela librement et honnêtement devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous écoute. David exprime ses sentiments et ce n'est pas comme si Dieu ferme l'oreille en disant « je ne veux pas écouter cela ». Dieu ne dit jamais quand il entend nos soucis, nos plaintes et tout « non, je ne veux pas écouter, ça me déprime ». Dieu ne dit jamais cela, n'est-ce pas? Non, Dieu ne se lasse pas d'écouter ces choses. Et Dieu veut que nous lui exprimions ces sentiments que nous avons en nous. Ces sentiments qui viennent du plus profond de nous et qui nous font mal, parfois. Tout comme nous exprimons la joie, la reconnaissance envers Dieu, nous devrions être aussi prompts à Dieu d'exprimer ces sentiments parfois d'attaque, un peu de désespoir comme nous voyons ici. Et je suis convaincu qu'un des exemples les plus extrêmes de cela, c'est Job. Vous lisez le livre de Job, et vous savez, les chapitres sont divisés entre ce que Job dit, les réponses de ses amis, il y a un peu un débat entre ces quatre hommes qui sont là. Et lorsque vous lisez les chapitres où Job, il parle, vous les lisez, et vous êtes frappé avec l'honnêteté de ce qu'exprime Job, sa volonté de parler avec Dieu, son son incompréhension sur les choses qui se passent, sa perte de tout, tous les malheurs qui lui arrivent, il ne comprend pas, et il exprime de manière honnête à Dieu ses sentiments. Il dit, je ne comprends pas, Dieu, j'ai tout fait pour toi, j'étais juste, je suis innocent, et pourtant toutes ces choses m'arrivent. Et Job est très honnête avec Dieu dans ce qu'il dit. Et malheureusement, dans notre vie, nous avons tendance à ne pas être assez honnêtes avec Dieu dans ce que nous ressentons et dans ce que nous subissons dans notre vie. Pour différentes raisons. Peut-être on a un peu honte d'avoir tel ou tel sentiment. Peut-être on se dit « Dieu ne s'intéresse pas trop à cela ». Peut-être on se dit même « Dieu ne peut rien faire dans telle ou telle situation ». Donc, c'est même pas la peine que je lui en parle dans la prière. Et pourtant, Dieu aime entendre nos prières. Pas simplement nos prières d'action de grâce, nos prières de louange, comme nous avons fait ce matin. Il aime entendre cela. Mais saviez-vous que Dieu aime entendre même des plaintes et même ces sentiments que nous exprimons? Dieu aime entendre cela. Pourquoi? Parce qu'il sait à ce moment-là, nous sommes en état avec nous-mêmes, et il sait à ce moment-là que maintenant il va pouvoir agir. Et David, dans ses versets, il ressent toute cette pression autour de nous. Il parle de cette multitude, de cette foule, tous ces ennemis qui sont autour de lui, qui lui met la pression, qui se moquent, qui essaient de le décourager. Et il ne cache pas cela à Dieu. On voit que David ne s'est pas tourné vers ses épouses. David ne s'est pas tourné vers même ses conseillers, au moins pas pour le moment, il le fera par la suite. David ne s'est tourné vers personne d'autre si ce n'est vers Dieu. Et pour nous en tant que chrétiens, de réaliser, de comprendre que Dieu, nous pouvons être honnêtes avec Dieu, mais cela implique être honnête avec nous-mêmes. Les choses difficiles par lesquelles nous passons, les situations difficiles, les choses qui font mal, on veut les minimiser. On veut écarter cela, on veut passer à autre chose. Et Dieu, dans sa bonté, veut que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes pour pouvoir être honnêtes avec lui, pour lui exprimer ces choses. Mais ce n'est pas tout. À la fin de verset 3, il y a ce « pause », on veut dire « c'est là ». Et il est très à propos que ce soit là, David savait très bien ce qu'il faisait, parce qu'au verset 4, il y a ce merveilleux mot qui change tout. Mais, David ressent toutes ces attaques, toutes ces pressions, l'exprime, n'hésite pas, dit « Dieu, je ne comprends pas, Dieu, je suis mal, je n'en peux plus ». On se moque de moi, on m'attaque et tout, mais, et là, ça change tout, n'est-ce pas? Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Oui, David s'exprime de manière honnête et on peut dire même de manière crue ses sentiments devant Dieu. Il les exprime. Non pas dans le désespoir que Dieu ne puisse pas aider. Non, non, non. C'est avec l'entière confiance que Dieu le protégera. Malgré les attaques de son fils, malgré la trahison de ses amis, malgré sa fuite de Jérusalem, il savait que sa sécurité reposait en Dieu. Et il dit, ô Éternel, tu es mon bouclier. Quand vous voyez ce mot bouclier, il ne faut pas penser à ce petit bouclier rond qui protège juste une partie du corps. Non, il faut penser à ce grand bouclier qui couvrait tout. On pouvait se mettre derrière et là, bah, rien ne pouvait atteindre celui qui était derrière ce bouclier. Okay. Ce bouclier qui protégeait de tout, des flèches, des épées, tout ce qu'on pouvait envoyer à l'époque, ce bouclier était l'assurance d'être en sécurité. Et Salomon choisit, David plutôt, choisit ce mot pour dire « Dieu, tu me protèges de tout. Il n'y a rien qui puisse traverser Dieu pour nous atteindre. » Et David le savait. Et David pouvait regarder autour de lui et voir ses ennemis, pouvait voir sa situation désastreuse loin de chez lui, pouvait voir tous les besoins autour de lui et quand même être convaincu de cette chose, Dieu me protégera. Et on se dit, mais David, comment pouvait-il avoir cette entière certitude que Dieu le protégerait? Parce que Dieu l'avait déjà protégé dans le passé. Souvenez-vous ce qu'il va dire au roi Saül. Il a dit, je gardais le troupeau de mon père, un lion, un ours sont venus à deux reprises, et là, Dieu m'a protégé et m'a permis de les vaincre. Et si Dieu a pu faire cela avec un lion ou un ours, ben, Dieu m'aidera devant ce géant Goliath, dit David et Saül. Et Dieu a protégé David devant Goliath. Dieu avait protégé David devant Saül, son beau-père, qui en volait à sa vie. Depuis des années, David avait vu la main de Dieu le protéger. Et David savait qu'à ce moment-là, Dieu n'allait pas le lâcher. Si Dieu l'avait protégé, avait été son bouclier pendant toutes ces années passées, ce n'était pas à ce moment spécifique que Dieu allait lâcher et lui permettre d'être atteint. Et il dit, tu es mon bouclier, tu es ma protection de toutes parts. Et puis, il va continuer dans ce verset 4. Tu es ma gloire. Une expression assez intéressante, n'est-ce pas? Nous glorifions Dieu. Hein? Donc, dans un sens, nous sommes la gloire de Dieu lorsque nous professons Jésus-Christ, lorsque nous vivons selon les principes bibliques. Et là, tu es ma gloire. Et ce que David veut exprimer à travers cela, c'est qu'il mettait en pratique les commandements de Dieu, il obéissait à Dieu, et à cause de cela, les autres pouvaient voir Dieu à travers lui. Que lorsque on regardait David, on pouvait voir Dieu. Non pas parce que David était quelque chose, mais parce que David obéissait à Dieu. David suivait les commandements de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il va être appelé ami de Dieu. Cet homme qui avait une telle relation avec Dieu, non pas qu'il était parfait, nous savons, il a péché à plusieurs reprises, mais il obéissait à Dieu, il suivait les commandements de Dieu, et à cause de cela, les autres pouvaient voir Dieu à travers lui. Ce n'était pas sa propre gloire que David était en train de mettre en avant, non, c'était la gloire de Dieu. Et il confirme à la fin de verset 4, « Tu relèves ma tête. » Et en lisant cela, j'étais frappé avec le temps que David a utilisé. On aurait pu s'attendre à ce que David dise « Et tu relèveras ma tête. » N'est-ce pas? Parce que là, il est dans la détresse. Il fuit devant son fils. Tout semble aller mal. Et un jour, oui, Dieu, tu relèveras ma tête. Tu me restaureras, oui, pas de problème. Mais ce n'est pas ce que David dit, c'est ça? Non, tu relèves. C'est vrai, le français n'est pas ma langue natale, mais je comprends que c'est un présent, c'est ça? Ce n'est pas un futur, ce n'est pas le passé, non, c'est présent. Tu relèves en cet instant même ma tête. Quelle confiance! Alors que tout se passait mal, rien autour de lui n'indiquait que ça irait mieux bientôt, mais il dit, Dieu, tu es là, et à cause de cela, je sais que tu relèves maintenant ma tête. Dans un sens, j'ai même pas besoin d'attendre le futur, tu le fais déjà, tu agis déjà. David en était 100% convaincu. Quel exemple pour nous, n'est-ce pas? Nous traversons des périodes difficiles, nous subissons la pression, on se moque de nous. On dit effectivement, ben, ça ne vaut pas la peine de suivre Dieu. Et dans ces moments où peut-être nous pourrions douter, il faut revenir à Dieu et dire, Dieu, je sais que tu es là. Tu m'as aidé dans le passé et je sais que tu es en train d'agir aujourd'hui. Tu relèves ma tête. Ma tête est baissée peut-être. David, lorsqu'il est sorti de Jérusalem, eh ben, c'était en pleurant. Et là, il dit, tu relèves ma tête. Ça y est, ça va mieux. Non pas à cause de ce que moi je suis, mais Dieu à cause de ce que toi tu fais. Et de voir la conviction de David, c'est un exemple pour nous, c'est quelque chose qui devrait nous inspirer à chaque fois, peu importe les circonstances qui nous entourent, c'est quelque chose qui devrait nous inspirer à faire de même. Si David a pu, dans ces circonstances, se tourner vers Dieu et garder cette confiance, cette entière certitude, ben nous aussi, les circonstances par lesquelles nous passons sont réelles, font mal, sont difficiles, sont complexes, mais Dieu ne change pas. Et notre confiance en lui ne devrait pas changer non plus. Et c'est là au verset 5 où Salomon, je ne sais pas pourquoi j'ai Salomon à l'esprit, c'est David ici, c'est David qui lui va dire, de ma voix je crie à l'Éternel. De ma voix je crie à l'Éternel. Il est parfois nécessaire, il est parfois même convenable, selon les circonstances, de prier intérieurement. Pas quand on est quelque part, dans différentes circonstances, on prie intérieurement. Chez nous, on avait une expression, on se prie soi-même. J'ai jamais trop compris pourquoi on disait ça. Non, on prie à Dieu. On prie, on ne se prie pas, mais on prie à Dieu, parfois intérieurement. Rien de mal à cela dans les circonstances qui l'exigent. Mais en même temps, David ici nous montre qu'il est tellement important d'exprimer à haute voix ce que nous ressentons. Il dit, de ma voix, je crie. C'est pas simplement que je parle, je dis quelques mots, mais de ma voix, je crie à l'Éternel. Et dans notre vie, il y aura des moments où il sera nécessaire d'élever notre voix de manière audible, même s'il n'y a personne autour, même si on est tout seul, de pouvoir dire à haute voix, Dieu, j'ai besoin d'aide. Dieu, voilà ma situation, j'ai besoin de ton aide. Et à plus forte raison, s'il y a d'autres autour de nous, de pouvoir élever notre voix, ce qui sera un témoignage, ce qui va manifester notre confiance en Dieu, ce qui va aider d'autres à mettre leur confiance en Dieu, ce qui va encourager d'autres lorsque eux, ils nous entendent crier à Dieu, ils vont dire, cette personne a eu la bonne réponse. Et maintenant, moi aussi, je peux avoir la bonne réponse. Et je suis certain que David a demandé à ses amis, à ceux qui l'entouraient, de prier pour lui, dans cette situation, de crier à Dieu pour lui, mais cela n'empêchait pas que David, lui, ait prié à Dieu pour lui-même. Et à la fin de verset 5, il montre que lorsque on prie à Dieu, lorsqu'il y a ce cri qui s'élève vers Dieu, il ne répond de sa montagne sainte. Et encore une fois, David ici parle au présent. Ce n'est pas « je prie et Dieu répondra » dans le futur. Il le fera, gloire à Dieu. Mais « je prie, j'élève ma voix vers Dieu et il me répond sur le moment. » Mais on peut se dire « oui, mais je ne le vois pas. » Je prie et j'ai l'impression que rien ne change. J'ai l'impression que rien ne se passe. que c'est le cas. On a bien l'impression que rien ne se passe. Mais que se passerait, que se passe-t-il réellement? Lorsque nous prions, Dieu agit instantanément. J'en suis convaincu. Que nous voyons les effets ou pas, Dieu répond et Dieu agit lorsque nous prions vers lui. Et il me répond de sa montagne sainte. Dieu dirige chaque chose. Dieu n'est pas injuste pour laisser ses enfants inutilement dans le besoin, dans l'angoisse, dans le danger. Non, non, non. Dieu nous permet de passer par ces épreuves pour nous faire grandir, pour nous approcher de lui, mais ce n'est jamais de manière inutile. Et lorsque nous prions vers Dieu, parce que Dieu est juste, parce que Dieu nous aime, il va nous répondre. Satan voudrait nous faire croire que parce que nous ne le voyons pas, Dieu n'agit pas. C'est un mensonge de Satan. Il nous faut être entièrement convaincus que Dieu répond dans le présent. Ce n'est pas simplement qu'il a répondu dans le passé pour certains, quelques-uns qui ont été proches de Dieu, et qu'il répondra dans l'avenir incertain. Non, 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 Dieu répond dans le présent. Il faut en être convaincu. Et lorsque nous avons cette certitude, à ce moment-là, dans n'importe quelle situation, il nous sera facile d'élever notre voix vers Dieu, parce que nous saurons que ce n'est pas un exercice inutile. Pourquoi ne prions-nous pas? Ou ne prions-nous pas assez? Ben, en partie, n'est-ce pas, parce que quelque part, il y a le doute dans notre esprit si c'est vraiment efficace. David n'avait pas ce problème-là. David était entièrement convaincu que Dieu lui répondrait sur le moment. Il dit, tu me réponds de ta montagne sainte. Et puis encore une fois, verset 5 se pose. Là, il s'arrête pour ensuite, verset 6 et 7, pour exprimer une confiance renouvelée en Dieu. Verset 6 et 7 nous montrent que la confiance de David est demeurée ferme, non pas qu'il avait failli dans les premiers versets, mais là, il renouvelle envers Dieu cette confiance. Il dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, des choses quand même assez essentielles dans la vie, et souvent le moment où les attaques, surtout on va dire mentales, sont là, où nous sommes là seuls, avec nos pensées, ça tourne dans notre esprit, dans notre cerveau, on réfléchit sur la journée, les choses qu'on aurait dû faire, les choses qu'on n'aurait pas dû faire, nos manques, nos attentes. C'est là où Satan aimerait nous faire douter, voudrait emmener de mauvaises pensées dans notre esprit. Il dit, je me couche. Et non seulement je me couche, parce que vous savez très bien, tout comme moi, on peut très bien se coucher et ne pas s'endormir. Combien de vous ont fait l'expérience? À se coucher, à s'allonger, et puis le sommeil ne vient pas. Et c'est très fréquent. Mais non seulement je me couche, mais je m'endors. Je m'endors. Et puis, gloire à Dieu, je me réveille. Parce que si on s'endormait et on ne se réveillait pas, à la fois pour le chrétien, c'est une très bonne chose, on est dans la présence de Dieu. Mais bon, de l'autre côté, un triste moment pour ceux qui restent. Mais je me réveille, gloire à Dieu, car l'Éternel est mon soutien. Encore une fois, il renouvelle cette confiance envers le Seigneur. Oui, des attaques, oui, plein de choses qui pourraient troubler mon esprit. De mauvaises pensées qui pourraient être là. Mais qu'est-ce qui me protège? Ce n'est pas simplement la pensée positive, ma force de garder ces choses à l'esprit. Non, non, c'est Dieu qui me garde. C'est lui qui me fait coucher, qui me fait m'endormir, qui me réveille. C'est lui qui est mon soutien. Et lorsqu'on parle de soutien, cela va trébucher. Et par nous-mêmes, nous tomberions. Mais Dieu est notre soutien. Il est mon soutien. Non pas il sera, il a été dans le passé et aujourd'hui il sera mon soutien. Et surtout dans ces jours où les nuits semblent longs, les jours semblent assez courts, on en parlait dans la première partie, le soleil se lève quand même assez tard, il est bien saignant en ce moment, et puis il se couche de bonne heure. Les jours semblent très courts, la nuit assez longue, à ces moments-là, ben, de pouvoir se tourner vers Dieu et dire, Dieu, voilà mes problèmes, voilà mes soucis, voilà ce à quoi je suis confronté, et je sais que toi, tu t'en occuperas. C'est toi qui me donneras la paix qu'il faut pour avoir le repos qu'il me faudra. Et là, verset 7, je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Souvenez-vous, verset 2, il a parlé d'être entouré de ses ennemis. Ces multitudes qui étaient là, qui lui faisaient la pression, il se sentait un peu envahi. Là, après s'être arrêté pour réfléchir sur Dieu, après avoir renouvelé sa confiance en Dieu, maintenant, peu importe, peut avoir une armée, peu importe, je ne crains pas. Je ne crains pas. Il y a bien des choses dans ce monde qui peuvent nous faire craindre, qui peuvent nous effrayer. Bien des choses, bien des personnes aussi, qui nous effrayent, qui nous font peur, que nous craignons. Et David ici, il dit, peu importe, je ne vais pas les craindre. Non, je ne vais pas les craindre parce que j'ai Dieu avec moi. Dieu est mon soutien, Dieu est ma protection. Et si Dieu est là, et s'il est réellement le Tout-Puissant, et il est, ben, qui peut faire quoi que ce soit contre moi? Ésaïe 41, ben, ne promène pas ses regards d'inquiétude. Mais n'aie pas peur, que peuvent me faire les hommes si Dieu est avec moi? Ben, rien. Et David, lui, il comprend, son fils, son propre armée, et contre lui, le peuple a été détourné contre lui, mais peu importe. Il n'était pas dans la crainte, il n'était pas désemparé. Non. Il a dit, Dieu est avec moi, je ne les crains pas. Qui sont-ils face à Dieu? Qui sont-ils réellement? Pour Dieu, ce n'est rien. Encore une fois, Ésaïe 40, tous les habitants de la terre, pour Dieu, c'est comme la petite poussière de la balance. Insignifiant. En quantité, en puissance, pour Dieu, ce n'est rien de sauver, ce n'est rien pour Dieu de protéger dans ces moments-là. Puis, versets 8 et 9, David dit, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. » Il est convaincu que Dieu le fera. Dieu est là, Dieu ne va pas le lâcher. Et il dit, il confirme ce que Dieu va déjà faire, « Lève-toi, sauve-moi. » Mon Dieu. Et il dit, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. David est convaincu que ceux qui s'écartent de Dieu seront punis. Un jour ou l'autre, ils seront punis. Peut-être nous verrons leur punition de nos propres yeux, peut-être pas. Mais un jour, tous ceux qui s'écartent de Dieu seront punis. Aujourd'hui, il y a des personnes qui commettent des crimes, parfois des crimes horribles, puis rien. Rien. Il paraît que le président, l'ex-président, je crois, de Soudan, on le poursuivait en justice à la Cour internationale pour des crimes contre l'humanité. Et là, dernièrement, on a arrêté cette poursuite de lui parce que, apparemment, les nations ne voulaient que apparemment cet ex-président, il était question de génocide, toutes sortes de crimes horribles. Et là, apparemment, cet homme, bah, rien. Rien ne lui arrivera, parce que les hommes sont lasses, les hommes ne veulent pas que la justice soit faite. Et ça, ce sont les hommes. Parfois, les hommes méchants commettent des crimes, bah, sont libérés. Parfois, les innocents sont emprisonnés, vous le savez. Mais avec Dieu, rien de cela. Dieu va punir tous ceux qui s'écartent de lui. Il va protéger et rendre la justice à ceux qui lui sont fidèles. Mais il nous faut être entièrement convaincus que Dieu va corriger, punir les méchants. Encore une fois, un mensonge de Satan, c'est que les méchants, ceux qui se défendent de Dieu, ils n'ont pas de soucis à se faire. Tout ira bien pour eux. Ils semblent réussir. Son chapitre 73 nous parle de cela. La réussite apparente du méchant. Mais non. C'est peut-être pour un temps. Mais il viendra un jour où Dieu les punira. Et encore une fois, David reste au présent quand il dit « Tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. » Ils essayent de faire du mal à David, mais David sait que Dieu le protégera et il va punir. Et va même commencer à punir ses enfants, ses ennemis, dans l'immédiat, au présent. Et David est convaincu de cela, alors qu'encore une fois, il est loin de chez lui. David, en ce sens, n'a aucun pouvoir sur le moment. Ce n'est pas David qui va pouvoir punir son fils. Ce n'est pas David qui, de lui-même, va pouvoir punir ses amis qu'il avait trahis. Non, il remet cela entre les mains de Dieu parce qu'il sait que Dieu est puissant pour le délivrer et pour lui rendre la justice. Et c'est là où on arrive à ce merveilleux verset 9. David, à la fin de ce petit psaume, ce petit chant qu'il écrit, il dit « Le salut est auprès de l'Éternel. » Le salut est auprès de l'Éternel. Le salut, quand on parle dans ce sens sauvé pour l'éternité, sauvé de ses péchés, oui, le salut est auprès de Dieu. Et je suis convaincu que chacun d'entre nous serait d'accord de le dire. Moi, j'espère. Le salut est auprès de Dieu, le salut de nos péchés pour toute éternité. Mais élargissons cela un peu. Le salut de nos ennemis se trouve auprès de Dieu. Ne se trouve pas dans le gouvernement. Les lois qui sont votées, qui sont contraires à la Bible, qui essaient de nous contraindre à changer nos opinions, nos convictions, ça, ce n'est rien pour Dieu. Le salut physique, le salut émotionnel, le salut spirituel, d'être sauvé de n'importe quelle situation, c'est Dieu. La réponse est Dieu, et ce salut se trouve auprès de Dieu. Encore faut-il aller le chercher. Encore faut-il aller vers Dieu tout comme David. Parce que Dieu nous mettra dans des situations où nous aurons besoin de salut, où nous aurons besoin d'être délivrés. Dieu nous permettra d'être dans ces situations. Et c'est là où il faut aller auprès de Dieu. Je pense à Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, où il va parler de son écharpe dans la chair. C'était apparemment quelque chose même qui l'empêchait d'accomplir complètement son ministère. C'est vraiment quelque chose qui le perturbait à bien des niveaux. Et il va demander à Dieu. Et il va s'adresser à Dieu. Dieu aura une raison pour cela et va lui dire « Ma grâce te suffit ». Mais il va s'adresser à Dieu. Il ne va pas chercher par lui-même, quelle que soit cette écharpe, que ce soit physique ou autre. Il n'avait pas cherché par lui-même d'essayer d'enlever cela. Non, il demande à Dieu. Et David, tout comme bien d'autres dans la Bible, et bien d'autres chrétiens à travers tout tous les siècles ont fait, hein, ils se sont approchés de Dieu. Le salut est auprès de l'Éternel. Ça se trouve dans sa parole. Alors si nous ignorons la parole de Dieu, nous ignorons les ressources que Dieu nous donne. Nous ne serons pas au courant des manières que Dieu peut nous délivrer. Nous n'aurons pas les armes que Dieu voudrait nous donner pour que nous soyons plus que vainqueurs. Et du coup, David, il comprend qu'il n'avait d'autre choix que de se tourner vers Dieu. Il avait été ramené très bas par cette situation, mais il n'était pas désemparé. Il n'était pas au bout. Non, il était au bout de lui-même, mais il savait que Dieu n'était pas au bout de lui-même. Et il termine en disant que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pourquoi est-ce qu'il termine avec cela? Parce qu'il reconnaît qu'à la fin, c'est Dieu. C'est Dieu, si nous serons sauvés, si nous serons bénis, si nous serons délivrés, si quoi que ce soit devient... va arriver dans notre vie, là, c'est Dieu. Nous devrions le reconnaître. David l'a reconnu. Il savait que ce n'était pas lui, en tant que roi, qui pouvait apporter cette bénédiction. Non, c'était Dieu qui allait bénir son peuple. Et allait le bénir suite à son obéissance. Dieu ne peut pas bénir la désobéissance. Si David ne s'était pas tourné vers Dieu, si David avait essayé par ses propres moyens de régler ceci, n'avait pas consulté Dieu, David n'aurait pas pu se réclamer des bénédictions de Dieu. Et nous, dans notre vie, nous allons, ou parfois nous faisons, face dans le présent aux situations difficiles. Harcèlement, moquerie, pression, incompréhension, attaque, toutes sortes de choses. Nous faisons face à ces différentes situations et nous avons le choix soit d'essayer de combattre ces choses par notre propre force, nos propres arguments, notre propre raisonnement, ou bien de faire comme David et dire « Dieu, je t'exprime toutes ces choses. Je ne veux pas ressentir tous ces sentiments. Je ne veux pas être dans la haine, dans le désarroi. Je ne veux pas ressentir toutes ces choses, mais je les ressens et je te les donne. Je veux être honnête avec toi, Seigneur. Et puis renouveler notre confiance en Dieu, nous tourner vers Dieu. Nous avons ces deux choix. Soit de continuer par nous-mêmes, et avec la certitude que ça ne réussira pas. Ou bien nous tourner vers Dieu, de prendre ces décisions chaque jour, de dire à Dieu, aujourd'hui, peu importe ta situation, je vais demander ton aide. Je vais exprimer ma confiance en toi. Je vais être un témoin autour de toi de ce que toi tu autour de moi de ce que toi tu fais en moi. Et je vais diriger le regard des gens vers toi, non pas vers moi,